Je m'occupe de l'adoration eucharistique, en fait, avec une équipe, on est une trentaine dans l'équipe, hein, voilà, de joyeux de riz qui essaie de promulguer, de propager un petit peu cette dévotion au cœur de Jésus à travers l'adoration. Je trouve que c'est une belle mission. Moi, je suis laïc dominicain, mon épouse aussi, c'est le cas. On est engagé, alors on ne dit pas tiers ordre, mais ça veut dire la même chose, en fait. Laïc dominicain, c'est comme tiers ordre dans d'autres ordres, où on essaie de vivre des piliers dominicains. C'est-à-dire la prière, la vie fraternelle et l'étude, le tout au service de la prédication. C'est-à-dire qu'on va recevoir des choses et on essaie de redonner un petit peu des petites perles qu'on a reçues. Et dans ce cadre-là, je suis amené en ce moment à approfondir le livre de l'Exode. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de choses dans le début du livre de l'Exode. Et dans ce cadre-là, vous verrez, j'utilise l'Exode comme trame parce que ça permet un peu de réfléchir à la manière dont Dieu nous parle et la manière dont Dieu nous touche. Donc, j'avais parlé déjà dans les deux premières conférences de la mission. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas défini ce que j'entendais par mission. Mission, moi, je le prenais au sens de Dieu nous envoie. Quand l'esprit nous pousse à faire quelque chose, à s'engager dans un service, comme Jésus est poussé au désert, où les disciples sont poussés dans la barque et puis il y a la tempête juste après, ça peut être, on est poussé à rendre un service dans l'église, on peut être poussé d'une manière plus simple à aller parler à quelqu'un de quelque chose. Pour ceux qui sont mariés, ça peut être, on est poussé à dire à son conjoint quelque chose qui est difficile à dire, ou quand on n'a pas le même tempo au niveau de la prière, etc., on peut être poussé à aller vers quelqu'un. Et parfois on ne comprend pas parce que voilà, il y a une tempête comme la tempête apaisée, on est poussé à quelque chose, on le reçoit dans la prière et on donc la mission, je la prends dans ce sens-là, c'est quand on est poussé par le Seigneur, quand l'esprit nous pousse à quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui peut nous sembler déraisonnable. Donc dans ce cadre-là, eh bien c'est un peu notre vie de chrétien où le Seigneur va nous pousser et on va se demander mais comment vais-je faire pour réagir. Donc, lors de la première conférence, on parlait de la manière dont Dieu va nous révéler notre mission, ou nos missions, parce que c'est tout le temps qu'il nous parle, et comment il nous révèle notre nom nouveau. La dernière fois, on avait vu un petit peu comment il nous aide à combattre les obstacles initiaux qui se trouvent quand on se met en marche dans une mission, comment il nous aide à passer les premières étapes qui sont un petit peu... qui peut être un peu difficile, voilà, parce qu'il y a, c'est comme dans la science, il y a un changement d'état quand on commence à faire chauffer de l'eau, quand on commence à pousser quelque chose. Il y a toujours une force qui va s'opposer quand on se met en marche. Et aujourd'hui, eh bien, je souhaitais réfléchir sur le fait que parfois on est poussé, enfin quand on est poussé à la mission, on va forcément à un moment rentrer en confrontation avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que on est finalement missionné quand le Christ nous envoie, c'est parce que il veut qu'on, en tant que membre du corps du Christ, on apporte quelque chose de l'éclairage de Dieu sur le monde, c'est-à-dire d'apporter quelque chose à la distinction entre le bon grain et l'ivraie, finalement. Voilà, il y a des plantes qui poussent, et le chrétien ou la chrétienne, c'est la personne qui aide le monde à reconnaître l'ivraie. Et donc, la question d'aujourd'hui, c'est comment Dieu nous aide à reconnaître l'ivraie pour éviter d'en manger, parce que quand on est dans le monde, voilà, des fois, on peut être tenté de manger des choses qui ne sont pas bonnes. Et à tenir bon dans cette mission d'éclairer le monde, quoi, d'être un lampadaire et de porter un éclairage qui soit juste et qui ne soit pas uniquement justicier, qui soit plein de miséricorde également. Donc, d'abord, on regardera ce qu'on peut dire sur l'ivraie avec deux textes. Dans Saint Matthieu, la parabole de l'ivraie et dans Ézéchiel 38. Et ensuite, on regardera un peu plus en détail ce que dit le livre de l'Exode sur la confrontation entre Moïse, qui a été envoyé en mission par Dieu, lors du buisson ardent et ultérieurement, et Pharaon, qui, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, va jouer le rôle de celui qui sème l'ivraie, en fait, comme on va le voir. Et celui qui essaie de maintenir ses plans bien en ordre de bataille, alors que Moïse, il est un petit peu celui qui va dire « Mais tu sais, ça c'est des mauvais plans. » Enfin, si je mets ça sous forme de la parabole qu'énonce le Christ. Voilà. Donc, premièrement, c'est une petite partie sur l'ivraie. D'abord, cette parabole qu'on connaît en général assez bien, en Matthieu 13, ça commence au verset 24. On est dans les paraboles du royaume, où Jésus a commencé à parler du semeur, qui est sorti pour semer. Et Jésus explique pourquoi il parle en parabole. il donne l'interprétation à ses disciples qui le lui réclament. Et ensuite arrive cet épisode de livret. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé l'ivraie, en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?»« Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle, laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » L'ivraie, c'est un semis initial, Dieu qui fait ça, qui sème, voilà, et il n'y a rien de caché dans ce geste, il sème des bonnes choses. Et on a quelqu'un qui vient et qui part derrière, c'est toujours la manière de faire, c'est-à-dire à un moment où on ne s'y attend pas. Et c'est l'action de l'ennemi qui va faire d'une manière voilée, d'une manière masquée, en se disant « personne ne va me voir », et qui sème au milieu des autres grains, c'est-à-dire qui va cultiver un petit peu cette confusion qu'on peut avoir en regardant une plante sans faire attention, quelqu'un qui se relâche un petit peu dans sa vie spirituelle, qui ne va pas, il va profiter de la faiblesse en fait de toute personne à ne pas sans arrêt être en éveil, voilà. C'est ça l'ivraie, hein. En plein milieu du blé, et il part, c'est-à-dire qu'il ne reste pas pour rendre compte si on l'interroge, il dit « bah voilà, je vais faire ça et vite je vais m'éclipser ». Et alors quand l'herbe pousse, il y a une tentation des serviteurs, donc Jésus dit « ce sont les anges », mais moi je me dis « bah en fait non, les serviteurs c'est les anges d'une part, parce que les anges ils ont une capacité à agir dès maintenant et ils sauraient arracher l'ivraie ». Mais c'est aussi nous, en fait. C'est-à-dire que tout chrétien peut voir des choses qui sont semées. Par exemple, aujourd'hui, il y a des lois qui légalisent l'avortement, qui légalisent un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes en soi prises isolément. Et on pourrait être tenté de dire, on va faire un putsch dans l'État français, et puis on va dégager cette loi, et on va un peu par la coercition. Enlever cette loi, quoi, du jour au lendemain, comme ça, brutalement, en disant maintenant on sait que c'est mauvais, donc on l'arrache, quoi. Et ben Dieu là est en train de nous dire même quelque chose qui, pris isolément, encore une fois, parce que les situations humaines sont plus complexes que juste un élément pris isolément, mais Dieu dit si vous arrachez ça avec brutalité, il y a un risque que on fasse un contre-témoignage à un moment, qu'on blesse des personnes, qu'on aille à l'encontre de la mission que le Seigneur nous donne. Parce que la stratégie du bon Dieu, c'est toujours de dire, bah, il y a une situation où il y a de l'ivraie, bah, je vais utiliser cette situation, je vais utiliser tous ces plans qui poussent parallèlement au bon plan, et je vais me servir de ça pour convertir des personnes, en fait, pour que des personnes peut-être s'empoisonnent momentanément, et par le goût amer de l'ivraie, par les mauvaises conséquences, soient amenées à revenir vers moi, quoi. Voilà, l'ivraie, c'est ça. Et moi-même, j'en ai fait les frais encore en essayant d'avertir, en disant j'ai envie de parler de ça ou d'écrire là-dessus. Et je me suis pris un mur aussi parce que je me suis rendu compte que le Seigneur, quand il nous fait nous rendre compte que telle ou telle chose est mauvaise, il nous demande pas de tout enlever, de tout... Il y a de la place en dessous. Ouais. Il nous demande pas de... Voilà, il nous demande en fait de le laisser arracher lui-même les choses. Voilà. Ou par notre action, en fait, on va peut-être contribuer à l'arrachage, mais c'est pas nous qui allons faire le geste d'arracher, en fait. Nous, on va rester dociles dans notre mission, dans là où le Seigneur nous envoie, et c'est ce qu'on va voir avec Moïse par la suite, où Moïse, c'est pas lui qui va dire « je vais faire sortir le peuple, hop, du jour au lendemain, quoi ». Dieu va faire passer le peuple d'Israël en Égypte par des étapes avant une sortie à bras étendus, à main forte à bras étendus. Mais ça sera un arrachage progressif. Et on voit bien, il y a d'abord rassembler l'ivraie et ensuite rassembler les grains de blé, quoi. Il y a deux étapes finalement. Dans ces deux étapes-là, quand on voit les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, en fait, ceux qui sont touchés principalement, c'est les Égyptiens. Et donc là, on reconnaît un petit peu le temps du jugement où les anges lient les livrets en bottes. Et dans un deuxième temps, ils ramassent les grains de blé. Donc, les grains de blé sortent d'Égypte, en quelque sorte. C'est le peuple d'Israël qui sort. Voilà. Et donc, ce mouvement qui est décrit dans l'Exode avec quelque chose de très systématique, quoi. C'est parce qu'on voit, on va voir Pharaon qui est sollicité à plein de reprises, qui lâche du lest un petit peu, puis qui résiste, et puis c'est à coup d'arguments et c'est à coup de prodiges. Et on retrouve ce mouvement de cette grande bataille, finalement, entre les serviteurs du Seigneur et puis les mauvais serviteurs qui s'accrochent à l'ivraie, mais qui le font d'une manière un peu insidieuse, quoi. Voilà. Parce qu'on pourrait prolonger la parabole en disant que les mauvais serviteurs passent la nuit et viennent mettre de l'engrais au pied des plants d'ivraie. On pourrait continuer comme ça. Ils font les choses en douce par derrière et c'est eux qui vont alimenter en mettant de l'huile sur le feu. Parce que les mauvais esprits ne restent pas inactifs.